Ça fait 30 ans que le redoublement recule en France, divisé par 3. Ça ne fait pas réduire les inégalités devant les apprentissages, en particulier pour les enfants des catégories populaires. Le redoublement, l'ADEPE nous dit qu'il est impacté essentiellement par des contextes particuliers. On redouble plus en éducation prioritaire, on redouble plus quand on est un enfant d'ouvrier. C'est donc un phénomène à la fois pédagogique et social sur lequel il est important de revenir sur le cœur de l'enseignement. Dernière chose que j'ai modifiée à ma présentation, parce que c'est quelque chose qui a tourné un petit peu hier, les classes à cours multiples dans le primaire, c'est quelque chose de très fréquent. Le fait qu'un enseignant garde ses élèves plusieurs années est intéressant, mais en soi ne constitue pas forcément quelque chose qui va modifier les apprentissages des élèves. Mais c'est une piste très intéressante, cette idée de cycle. Hein. Mais il n'y a pas d'automaticité entre une structure organisationnelle. En France, presque un élève sur deux est scolarisé en primaire dans une classe où il va rester 2 ans avec le même enseignant. Hein. Alors, je rentre dans mon cœur de sujet, ça vient d'être dit par Madame Chiche. Effectivement, l'école a 3 ambitions. Faire réussir tous les élèves, c'est à la fois transmettre la culture et les savoirs. Pour cela, il est nécessaire d'outiller le cognitif et le langagier, mais on sait aussi que ça n'est possible pour un certain nombre d'enfants qu'en renforçant l'estime de soi, tout simplement en disant « toi aussi, tu peux réussir sans trahir tes parents à venir dans ce monde de la culture ». Donc très clairement, il faut dire les choses, hein, sans tricher. Est-ce que la réussite de tous, c'est bien l'objectif que la société donne à son école ? On va se le dire entre nous, c'est pas tout à fait sûr. Donc, il y a là des ambitions politiques. Un gouvernement qui dit « nous voulons faire réussir tous les élèves » doit donner des preuves d'amour. Il en donne actuellement. C'est des choses qui se construisent sur le temps long, mais aussi qui s'opposent à un certain nombre de fonctions de l'école. Alors, l'entrée que je vais prendre, elle est multiscalaire. Mon chef est un géographe, donc je suis obligé de dire multiscalaire une fois dans une présentation. Et donc, on va travailler à 3 niveaux. Il me semble que les questions que nous posons, elles ne peuvent être pensées que si on articule. Premièrement, nous devons comprendre ce que les élèves ne comprennent pas. Nous devons creuser ensemble quelles sont les questions que les enseignants ont à régler dans le cœur de classe. Et pour cela, ça a été dit déjà beaucoup de fois, c'est ça dont je vais parler, il faut accompagner les enseignants pour leur donner la preuve que oui, ils peuvent faire apprendre l'élève. Et qu'il y a des responsabilités extérieures, mais il y a aussi des responsabilités à l'intérieur de l'école. Et pour cela, on a besoin de formation, mais on a aussi besoin de pilotage pédagogique. Je vais pour cela prendre un seul exemple. Parce que ça a été déjà cité, se met en place un dispositif qui s'appelle « plus de maîtres que de classes ». Et puis, nous sommes quelques-uns ici à regarder ce dispositif de près. Ce que je vais vous proposer, c'est 5 minutes d'une maîtresse qui travaille avec une autre maîtresse, mais c'est surtout cette maîtresse qu'on va voir. C'est une maîtresse qui est en milieu très difficile, et pourtant, vous allez voir qu'elle fait réussir ses élèves. Et donc, ce qui m'intéresse en vous montrant ces images, c'est que vous vous posiez la question, qu'est-ce que vous allez comprendre, vous qui êtes tous des spécialistes de la question, qu'est-ce que vous allez comprendre de qu'est-ce qui peut bien faire que cette maîtresse-là fasse réussir ses élèves? Ça dure 5 minutes, faites attention, c'est très court.
On avait dit que c'était plutôt raconter ce qui se passe, d'accord ? Décrire ce qu'il y a, c'est-à-dire décrire l'image, c'est décrire par exemple ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans leur classe, qu'on a parfois dans la nôtre ou peut-être qu'on n'a pas dans la leur, qu'ils n'ont pas dans la leur, d'accord ? On avait dit que pour décrire l'image, on allait utiliser quoi comme sorte de mots dans nos familles de mots, plutôt ? Si on dit il y a des chaises, des enfants, il y a des affiches, on utilise quoi ? Alors on utilise quoi ? Chaises, affiches, tables, c'est quoi tout ça ? Non, mais c'est quoi tout ça comme classe de mots ? C'est quoi tout ça ? Des noms ? Des noms ! Classe, chaise, on va utiliser beaucoup de noms pour décrire, d'accord ? Et puis devant, on va mettre quoi pour dire s'il y en a un ou plusieurs ? On va mettre des déterminants. Donc on n'oubliera pas s'il y en a plusieurs, s'il y a des chaises, Qu'est-ce qu'on n'oubliera pas de faire ? D'accrocher le S. D'accord ? Bocard, tu te tiens convenablement, s'il te plaît. Ensuite, si on veut raconter ce qui se passe, là, on va utiliser pour dire « il fait ci, elle fait ça, il joue, il chante ». On va utiliser des... quelle sorte de mots ? Des verbes. D'accord ? Et ce qu'on va travailler de nouveau aujourd'hui, parce que les noms et les déterminants, ça fait longtemps qu'on a appris, on va essayer d'accorder le sujet avec le verbe. Vous vous souvenez, c'est ça qu'on a travaillé en grammaire. Donc là, on l'utilise en production écrite. Parce que depuis toujours, quand vous faites la production écrite, vous utilisez des noms, des adjectifs, des verbes, depuis toujours. Sauf que maintenant, vous le savez. Et vous comprenez pourquoi la maîtresse vous rajoute des petits NT tout le temps. Pourquoi elle rajoute des fois des NT au verbe, la maîtresse ?
Parce qu'il y a plusieurs choses.
Il y a plusieurs choses ou plusieurs ?
Il y a plusieurs gens qui font la
même chose. Plusieurs gens, par exemple, qui font la même chose. Ici, la cloche sonne et les élèves mangent. Les élèves, c'est le sujet du verbe mange, donc on accroche le NT à mange. D'accord ? On va essayer de faire ça. Donc vous allez devoir, quand vous allez être tout seul, écrire des phrases pour décrire l'image et raconter ce que font les enfants, la maîtresse ou les maîtres dans cette école. D'accord ? Les distributeurs, vous distribuez les cahiers, Ismaëla et Amina, cahiers jaunes. Massiami, Aïssata, Mariam et Penda, vous venez travailler ici avec Jennifer et le poisson. Et toi, tu vas travailler avec la tablette. La chance, hein. Dès qu'on a son cahier, Oumar, on se met au travail, on prend une nouvelle page et on décrit l'image. Laisse-le tranquille. Alors, sinon, regarde, si tu veux dire que c'est pas dans une classe, mais c'est dans celle-là que tu regardes. Comment on dit ? Dans... comment tu dirais ? Que tu veux parler de celle-là comme si tu la montes dans classe. Amina, aide-nous. Comment on fait quand on dit dans classe ? Pour dire que c'est dans celle-là, on va dire dans cette classe. Tu vois, comme si tu la montrais dans cette classe. D'accord ? Cette, on l'avait déjà mis, ce déterminant, il est là-haut. Tu vois ? La sorcière, en dessous, tu as une et sept. Tu le vois ? Là, regarde, Bobo. Sept classes. Je vais te le montrer. Dans cette classe, d'accord ? Pour dire que c'est celle-là dont tu parles. Qu'est-ce que tu vas écrire comme phrase complète ? Dis-moi ta phrase avant de l'écrire. Dans cette classe, oui. Il y a des chaises, oui. Je ne comprends pas. Il y a des chaises et des pots de peinture, d'accord ? Eh bien, parfait. Dans cette classe, il y a des chaises et des pots de peinture. Allez, tu continues tout seul. Et le « dans », c'est le « dans » de « dans la classe » qui est là-haut. Tu fais quoi, là ? Oui. Je vais venir voir tout à l'heure ce que tu as fait, Mariam. D'accord ? T'inquiète pas. Pareil, Penda. J'arrive. Alors, les élèves écoutent. On parle des élèves. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils écoutent. Donc, s'il y a plusieurs élèves qui écoutent, on accroche quoi au verbe ?
S.
Non, regarde, c'est, les élèves écoutent, c'est comme les élèves mangent. On accroche quoi ? Le N.
Le N.
Et le
T.
Et le T.
Les enfants étudient l'histoire.
Allez.
Non, regarde. Regarde le mot. Ça commence par quoi ? C'est le O de jaune. Ah, et U, ça fait quoi ? Oui, c'est aux enfants. Tu peux coller, Penda, vas-y.
Sport. Alors, est-ce que tu fais du sport, toi ?
Non.
Non, tu fais du sport. Alors, corrige-toi. Voilà. Et du coup, il faut que tu accroches quand même ton S et ton P. Voilà.
Alors, si on avait du temps, hein, je pourrais vous proposer de... décortiquer ensemble, mais comme on n'en a pas beaucoup, j'ai fait ce travail, mais vous l'avez fait aussi. Hein. Si on essaie de regarder dans le détail de cette maîtresse, qu'est-ce qu'elle fait pour faire réussir ses élèves ? Il me semble que c'est ça qui sont des choses qui sont utiles de travailler en formation. Hein. Je vais essayer d'y revenir après, mais vous voyez bien mon modèle multiscalaire. Comprendre ce qu'ils ne comprennent pas, comprendre ce que font les enseignants. Premièrement, elle cherche à faire de la clarté sur ce qu'il y a à faire. Mais en même temps qu'elle fait ça, elle assure aussi une régulation. Dis donc toi, tu te tiens convenablement, s'il te plaît. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait les deux choses, exigence, bienveillance en même temps. En même temps qu'elle fait ça, elle organise un milieu avec sa collègue si elle était toute seule, elle organiserait aussi un milieu. Là, le fait qu'elle soit à deux, ça lui permet d'organiser une différenciation. C'est-à-dire que, et vous avez vu hein, comment elle présente la chose, mais il va y avoir la même tâche à faire. On fait bien de la production d'écrits, mais cette tâche va être adaptée. On y reviendra tout à l'heure. Et c'est avec cette adaptation qu'on va pouvoir commencer à travailler. Elle va organiser le milieu, mais elle va aussi engager les élèves dans le travail de manière extrêmement précise. Elle va installer un climat, elle va mettre l'accent sur de la coopération, et elle va surtout renforcer chez les élèves l'idée que tout ça, c'est du travail, du travail, du travail. Mais en même temps qu'elle va avoir cette exigence, elle va sans arrêt soutenir. Elle va mettre des mots sur les choses, elle va montrer, elle va préciser, elle va catégoriser, elle va indiquer dans les affichages où l'aide est possible. En même temps qu'elle fait ça, elle va sans arrêt mettre des mots pour que l'enfant ne confonde pas la tâche et le travail qu'il faut faire pour réaliser la tâche. Elle va expliciter, dis-moi ta phrase avant d'écrire, je ne comprends pas, tu peux me répéter pour que la maîtresse comprenne. Ah oui, eh bien parfait, dans cette classe il y a des chaises et des pots de peinture. Elle va sans arrêt mettre des mots. Elle va sans arrêt aussi, comme nous l'indiquait Brunner, aider l'élève à poursuivre l'engagement dans la tâche. Le tout n'est pas seulement qu'il ait commencé, il faut qu'il poursuive. Et pour cela, vous avez entendu tous les signes qu'elle va donner. Allez, tu continues tout seul. Le dent, non, c'est le dent qui est là-haut. Regarde, attends, je vais venir te voir. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Et tous ces petits gestes-là qui vont renforcer à la fois le climat de sécurité et d'engagement et qui va faire qu'elle va sans arrêt aider par les micro-détails l'enfant à poursuivre son engagement dans la tâche jusqu'à ce que la tâche soit réussie. Et pourtant, on sait très bien que faire ça, c'est aussi lever des malentendus. Avec le groupe des élèves qui sont les plus en difficulté, la maîtresse supplémentaire dit « Tu lis l'histoire ?» La petite fille répond « Allez !» C'est-à-dire quelque chose de très faible par rapport à ça. Mais là, la maîtresse ne va pas dire simplement « Non !» Elle va dire « Non, regarde le mot !» Pour qu'ensuite, elle aide encore en disant « Ça commence par quoi ? C'est le O de jaune. » Et là, la petite fille va encore avoir un malentendu. Elle va dire « J » parce qu'elle entend que dans jaune, elle entend d'abord le « J » là où la maîtresse cherche le O. Mais elle va réagir en vol, la maîtresse, très vite. Et elle va dire « Non, mais tu sais, A et U, ça fait quoi ?» Et là, la petite fille va enfin dire aux enfants « Oui, c'est aux enfants, validé. » Puis ensuite, permettre à l'enfant de travailler tout seul. « Vas-y, Brenda, tu peux copier. » Dernier exemple que je vous montre, avec ce support. Comment corriger quelque chose, si ce n'est par une attention extrêmement précise ? Est-ce que tu fais du support, sous-entendu, oh « Ben non, maîtresse, excuse-moi, je me suis trompé. Allez, corrige-toi. » Et là, le petit enfant, vous avez vu, il corrige son O en trop, mais il est embêté parce que le S, il est écarté du P. Et là, la maîtresse, elle ne le lâche pas, et elle lui dit, et du coup, tu penses qu'il faut que tu accroches ton S et ton P ? Et là, l'enfant reprend la gomme, efface le premier S, puis ensuite fait correctement. Et là, la maîtresse peut dire, voilà, allez, on va relire tout ce que tu as écrit. Alors, vous voyez bien que dans cette description microscopique de l'activité, combien nous avons des ressorts tout à fait passionnants pour aider les enseignants à décrypter ce réel à partir d'une activité réussie. Parce que souvent, on prend une activité qui ne marche pas et on la critique. Et là, il y a beaucoup d'enseignants dans ces milieux-là. Je rends hommage à Madame Sylvie Amador, qui est l'inspectrice de cette circonscription, qui a installé dans toute sa circonscription, grâce aux travaux d'André Ouzoulias, une culture de la production d'écrits. Eh bien, cette collègue, elle met en œuvre des choses essentielles. Mais alors pourquoi elle les met en œuvre ? Et je vais revenir sur ce que nos collègues suisses nous ont dit, encore ce matin avec Drelands, parce que je pense que c'est très important. On ne peut pas vouloir changer les conceptions des personnes sans comprendre qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui est mu par sa connaissance pratique. Hein, c'est Richardson qui dit ça. Un enseignant, ça agit en fonction de ce qu'il fait dans l'action. S'il fait des choses dans l'action qui sont efficaces et qu'il voit que ses élèves apprennent, alors il va continuer à faire ça. Aucun enseignant ne met ses élèves en échec exprès. Et du coup, Dreland et ses collègues ont bien raison de nous dire qu'il faut aller chercher les buts, non pas pour les transformer, mais d'abord pour les comprendre. Qu'est-ce qui se fait que cette collègue-là fait ce qu'elle fait ? Écoutez-la, et en l'écoutant, vous allez comprendre beaucoup d'autres choses que vous n'avez pas encore compris sur son activité. Ils sont disparates, mais ils sont tous en réussite, ils font quelque chose. Je fais une place à chacun. J'ai une classe coopérative. On apprend à lire en écrivant. On écrit pour quelque chose. L'écrit à la maison, c'est que des problèmes. Et donc ici, on dédramatise. Ici, on a construit du travail d'équipe. C'est chronophage, mais après, on gagne du temps. J'avais prévu de la faire écouter, mais je ne veux pas dépasser mon temps. Il me reste 3 minutes 50. L'inclusion ne doit pas empêcher l'aide de structures extérieures. Et du coup, vous voyez que cette maîtresse, elle a des tas de buts et de préoccupations qui soutiennent son action. Et c'est à partir de ça qu'elle va développer sa réussite personnelle. Parce que l'enseignement, ça ne vaut que si, entre tout ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on arrive à faire, on a des réussites pour les élèves, mais aussi on a des réussites pour soi. Et lorsqu'on entend cette collègue, quand on voit ce sourire, eh bien à ce moment-là, on est fier de notre travail et on sait que ces enfants-là, y compris, on peut les enseigner. Alors tout ce que je viens de vous montrer là, ben, il se trouve que c'est très bien décrit depuis longtemps par la recherche. Je vous cite simplement 3 exemples en 3 minutes. Yves Retter, dans son travail sur l'école de Marc-en-Barœul, a défini tout un tas de variables et vous retrouvez ces variables dans l'activité de cette collègue. Il faut travailler sur ces variables en formation d'enseignants. Parce que on ne s'en sortira pas autrement qu'en disant « oui, le travail, c'est important. Oui, il faut qu'ils produisent, mais il faut qu'ils réfléchissent sur. Oui, il faut faire de la clarté cognitive. Oui, il faut du temps. » Vous voyez qu'on est dans un système. Il ne suffit pas de dire « fais ça ». Il y a tout un tas de variables. Donc, il faut aider les enseignants. Et voilà mon résumé, voilà mon message pour vous. Il faut aider les enseignants à analyser la nature des difficultés des élèves, mais aussi comprendre les difficultés des enseignants à faire ce qu'ils ont à faire. Et il faut donc pour cela analyser les situations didactiques, ma collègue va revenir là-dessus plus précisément, et questionner les choix pédagogiques. Mais dans le métier, les gens ils sont capables de discuter de ces choix pédagogiques, parce que les situations sont singulières, mais il y a toujours des catégories de situations. Deuxième modèle que je veux vous présenter, parce que ce modèle-là, il nous aide beaucoup, c'est le modèle que Roland Guagou a développé sur « En formation, on a aujourd'hui des grilles qui nous permettent d'analyser l'activité de l'enseignante sans chercher les bonnes pratiques, mais en cherchant pourquoi les gens font ce qu'ils font. » Ça a été dit tout à l'heure. On va regarder dans 4 dimensions l'activité de l'enseignant. Comment est-ce qu'il organise son enseignement ? Comment il planifie ? Comment il prépare ? Deuxième dimension, comment il régule en vol lorsque ce qu'il a prévu ne se passe pas comme il l'a prévu ? Comment il aide ? Troisièmement, comment il structure cette motivation, mais non pas comme un processus externe, mais comme un processus strictement corrélé à ce qui se passe à l'intérieur des tâches. La motivation, elle n'est pas externe. Là, la motivation, c'est de produire de l'écrit. Il n'y a pas de motivation plus puissante pour un élève que d'être capable d'écrire une phrase. Il n'y a pas besoin d'habiller la tâche avec des lumières clignotantes. Et dernière chose, cette idée de la clarté cognitive, de l'explicitation de ce qu'il y a à faire, c'est quelque chose qui nous aide. Et seulement alors, après, on peut discuter différenciation. Mais ce n'est pas le préalable. Le préalable, c'est l'enseignement. Dernier modèle, et il me reste 26 secondes. Le modèle de Dominique Bucheton, qui a été travaillé avec Yves Soulet à Montpellier, nous permet de mettre une grille sur l'activité de l'enseignante pour comprendre pourquoi cette grille, pourquoi cette activité est productive ou non de réussite. Vous retrouvez d'autres mots pour dire la même chose. Comment est-ce que le tissage, l'atmosphère, le pilotage des tâches, l'étayage cognitif se conjuguent dans l'activité ordinaire de l'enseignant pour produire ? Voilà donc ce qui me semble être utile pour penser, non pas exclusivement la question du redoublement, mais la question de la réussite des élèves, et en particulier de ceux qui sont les plus loin des réquisites scolaires. Comprendre qu'il faut travailler sur la nature des difficultés. Bien évidemment, la relation aux familles, les situations sociales sont des constituants de tout ça aussi. Comment on explique aux parents ce qu'on est en train de faire à l'école quand on fait de la production d'écrit ? Le travail avec les partenaires, bien évidemment, mais je ne détaille pas ça parce que je n'ai pas du tout le temps. Mais surtout la question des normes, des buts et de l'éthique professionnelle. Si on veut faire ça en formation, et nous le faisons déjà à l'IFE, notamment en formation de formateurs, dans les rencontres, je connais beaucoup d'entre vous parce que j'ai travaillé déjà avec eux dans différents contextes. La méthode, c'est toujours de comprendre mieux ce qu'on fait, d'aller voir dans les dispositifs, dans la précision, pour qu'on arrive à comprendre à chaque fois ce qu'on gagne et ce qu'on perd quand on fait quelque chose. Parce que ce qu'il faudrait faire, ça a toujours un coût. Et regardez le lien entre ce que ça nous demande et ce que ça. Pardon, entre ce qu'on nous demande et ce que ça nous demande. Je finirai par un message publicitaire. Pour ça, nous avons la prétention d'avoir des outils que nous avons développés parce que ce travail d'aller chercher des vidéos de l'activité ordinaire, il est très difficile pour les formateurs. La base Néopass que nous avons développée à l'IFE recense plus de 1000 vidéos de situations de classe et d'entretien gratuites, utilisables par toute personne disposant d'une adresse académique. Et si vous avez mieux à faire, si vous n'avez pas mieux à faire, je vous invite à venir travailler avec nous sur ces questions au mois de mars, dans ce qu'on va faire dans le cadre de la chaire UNESCO, former les enseignants au XXIe siècle, à Lyon, avec le professeur Luc Ria. J'ai dépassé de 42 secondes. Merci.
Donc, merci à vous. Je vais poursuivre le discours de Patrick Picard en m'intéressant au plus proche de ce qui se fait dans les classes, puisque, en fait, je travaille sur la relation entre... Je travaille en fait sur les relations entre les pratiques d'aide ordinaire en classe et la construction des inégalités scolaires. C'est-à-dire que je vais étudier au plus précisément les situations d'enseignement et d'apprentissage. Généralement, quand on parle de difficultés scolaires, les registres explicatifs qui sont convoqués sont plutôt des registres sociologiques, familiaux, plutôt exogènes à l'école. Et dans mon travail, eh bien, j'essaie d'aller regarder ce qui pourrait être de la responsabilité aussi de l'école. Du coup, je vais regarder la difficulté ordinaire et le caractère différenciateur des pratiques enseignantes. Et j'essaie de comprendre les effets de l'internalisation, c'est-à-dire aider au sein de la classe, ou de l'externalisation, c'est-à-dire aider à l'extérieur de la classe. Alors, très rapidement, en fait, ce qui me sert dans mon travail, c'est que je vais regarder les pratiques au plus serré. J'enregistre et je filme des séances. Mais j'ai aussi, pour comprendre les déterminations de l'action des enseignants, j'ai réellement besoin de leur discours et bien entendu des prescriptions, des lois, des circulaires qui gèrent les pratiques d'aide aujourd'hui en classe et à l'école. Alors, j'ai développé 6 points que j'ai remis au jury. Maintenant, les 6 points, vous les retrouverez dans les en-têtes. Ils sont un peu éparpillés, mais ça permettra de redonner du lien. Alors, je vais vous entraîner dans une situation d'aide en classe, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lors de cette séance et comment le professeur agit. Cette situation, alors bien entendu, ce sont des méthodologies extrêmement qualitatives, mais j'ai choisi cette situation parce qu'elle me semble emblématique. C'est-à-dire qu'elle cristallise plus de choses que ne dit que cette stricte situation. Donc, je vais vous montrer une situation d'aide qui est faite dans le cadre des aides personnalisées à l'école qui sont devenues aujourd'hui les activités pédagogiques complémentaires et qui, c'était 2 heures qui étaient mises en plus pour les élèves qui présentaient des difficultés. Donc ça, c'est déjà un premier point. quand on interroge et quand on interviewe des enseignants, ils vont d'emblée dire que aider, eh bien, c'est plutôt s'adresser à un petit groupe. C'est quelque chose d'extrêmement prégnant. C'est-à-dire que pour les enseignants, eh bien, plus le groupe est restreint, plus ils ont plus de chances d'aider les élèves en difficulté. Plus le groupe est homogène aussi, et plus l'enseignant pense qu'il va être efficace. Et troisième chose, c'est que aider, eh bien, se fait très généralement après la séance, d'où une mise en place quasi systématique d'une aide externalisée en dehors de la classe. Ça signifie que c'est plutôt le couple diagnostic-remédiation qui est mis en place. La séance permet de repérer les difficultés de certains élèves, puis ensuite, eh bien, on va mettre en place une séance spécifique pour ces élèves pour remédier à leurs difficultés. Donc là, quelque part, on touche à ce qu'on peut nommer des prêt-à-penser ou des doxas, c'est-à-dire des conceptions qui sont véhiculées dans l'enseignement à propos de l'aide ordinaire. Et que ces doxas, en fait, elles touchent éminemment les formes d'organisation spatio-temporelle et elles ont des effets. Donc on va essayer de comprendre dans la situation du zoo, eh bien, quels effets cela peut entraîner. C'est une page d'un manuel de CE2, d'un CAPMAT, qui est un manuel qui est très utilisé à l'école élémentaire. Et voici la question que les élèves ont à résoudre. Quelle distance faut-il parcourir pour aller de l'entrée à l'espace des éléphants, en passant par le rocher des lions, l'abri des loups et le lac des cygnes? Alors, si on regarde un petit peu cette page de manuel, eh bien, on voit qu'elle emploie déjà le terme de distance dans le titre. Calcul de distance, distance sur un plan. Elle emploie en fait le terme de distance, c'est le terme qui va être travaillé dans la séance, comme s'il était déjà compris par les élèves. De plus, on dit distance sur un plan, ça questionne, puisque en fait ça n'est pas du tout un plan qui est présenté aux élèves, mais c'est bien un dessin. Sur le plan mathématique, maintenant, on voit que les différents trajets, puisque ça va être des distances qui sont au cœur de l'enjeu d'apprentissage, eh bien, les différents trajets dont les panneaux affichent des longueurs ne sont pas explicitement bornés. Donc, on ne sait pas trop ce que représentent ces 87 m. Je dis bien m parce que m est là pour dire mètre. Mais en même temps, on est dans la dimension de la feuille. Pour certains élèves, il va falloir recontextualiser. On est bien dans la visite du zoo et pas dans la dimension de la feuille où l'on a besoin des centimètres et des millimètres. Et de plus, ce dessin traduit une certaine perspective en fait dans la représentation, puisque le segment 56 mètres ici est plus long que celui qui représente 96 mètres. Et pourtant, l'ébauche de perspective n'existe pas dans la représentation des animaux puisqu'ils sont tous de la même taille. Donc on voit que d'emblée, cette situation de manuel, eh bien, elle présente des obstacles potentiels. Alors, quelles sont les attentes du professeur? Eh bien, le professeur a envisagé la tâche en trois temps. Il va faire sélectionner sur le dessin les distances entre chaque animal. Il va faire une opération, et puis il va faire exprimer la distance en mètres. Et ça permettra de faire avancer le temps des apprentissages de la classe. Mais dès la lecture de la consigne, il y a un des élèves qui dit « on fait une opération ?» L'enseignante dit « voilà, exactement, on fait ça plus ça ?» Ah ça je ne sais pas, essaie de faire tout seul, moi je regarde. C'est-à-dire que d'emblée, la situation problème qui est affichée, donc c'est l'enjeu dans le manuel, est quelque part réduite à faire une opération, puisque l'enseignante lui dit « voilà exactement ». C'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement de l'enjeu didactique, puisque la situation revient à faire une opération, et plutôt une plus. Donc, du coup, le premier enjeu, c'est-à-dire faire sélectionner sur le dessin les distances entre chaque animal, en rappelant bien que la distance est bien l'enjeu du savoir, eh bien, ce jeu-là n'est pas joué. Elle passe d'emblée à faire une addition. Et pas de chance, la tâche est échouée. Pourquoi est-ce qu'elle est échouée ? Pour plusieurs raisons. Les élèves ne posent pas bien l'addition et certains ont des difficultés dans le calcul et dans le calcul mental. Alors elle leur dit, bon, on n'arrive jamais au même résultat. Les quatre ont quatre des résultats différents parce qu'il y a des erreurs dans les tables d'addition. Le résultat m'importe peu. Normalement, le bon résultat, c'est 334. Pour m'assurer que vous avez bien compris, je vais vous donner à chacun un nombre que vous allez, et vous allez me dire ce qu'il représente. Dia, 57 mètres, ça représente quoi ? Donc en fait, elle change de cap, elle opère une bifurcation, puisqu'elle fait produire la signification d'un nombre exprimé en mètres. Et on va voir que plus que produire la signification d'un nombre exprimé en mètres, elle va faire produire une phrase formatée, X mètres, c'est la distance entre A et B. Donc Dia, 57 mètres, ça représente quoi ? Le tigre. Ah non, ça ne représente pas la distance entre le dauphin et le tigre. Les 57 mètres, ça représente quoi ? Le lion. Non plus. Ça représente quoi ? Le singe. Non plus. Ça représente quoi ? Entre la sortie et le dauphin. Voilà. Ça représente la distance entre la sortie et le dauphin. Et en fait, on voit que l'enseignante attend une phrase formatée qui va utiliser le terme de distance. Et les élèves, eux, eh bien, injectent le nom des animaux un petit peu au hasard. On assiste là à un dédoublement de milieu entre le professeur et les élèves. Ils ne sont pas du tout dans le même système d'attente. Du coup, et ça me paraît un des résultats en tous les cas majeurs dans les recherches que nous menons avec Corinne Marlot, ma collègue d'ACTE de Clermont-Ferrand, c'est qu'on voit que ces groupes d'aide ont un impact. C'est-à-dire que cette enseignante attend que le groupe d'aide, avec sa situation mathématique, puisse faire avancer les élèves en difficulté dans le temps ordinaire de la classe. C'est ma grande flèche. Or, que se passe-t-il ? Finalement, ce groupe d'aide n'est pas connecté au temps de l'apprentissage de la classe, mais est plutôt dissocié, puisqu'ils vont faire tout à fait autre chose que ce qui avait été proposé comme apprentissage dans la classe. Et du coup, Francia Leuthenegger dit qu'il y a une sorte d'étanchéité entre les systèmes, c'est-à-dire ce qui est fait dans le groupe d'aide ne va pas servir à l'avancée du temps didactique de la classe. Et Jeannette Tambonne nous dit que pourtant la valeur sociale dans la classe, elle est liée au temps didactique, c'est-à-dire à ce temps collectif de la classe, et qu'on l'acquiert en étant synchrone avec le temps didactique que l'enseignant impose dans la classe. Or là, il n'y a pas synchronisation, il y a même plutôt désynchronisation. Du coup, si on regarde les interactions, et là je vais passer très vite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, cette enseignante travaille avec 4 élèves, donc un très petit groupe. Pourtant, elle a autant de tours de parole qu'elle ne l'aurait dans une classe de 25, elle occupe un tour de parole sur 2. Elle guide les élèves avec des questions de plus en plus serrées. Il y a très peu de feedback, c'est-à-dire des retours que le professeur opère pour informer les élèves de leur production. Donc quelque part, elle va monopoliser la parole, confisquer l'usage des objets de savoir, puisque en fait, il n'est jamais question de distance, il est question de faire des opérations. Elle limite donc quelque part la construction de leur signification et il n'y a pas beaucoup de temps d'expérience supplémentaire, bien qu'il y ait un temps supplémentaire de travail. Alors, la question n'est pas de dire « Oh là là, ça ne va pas du tout dans cette séance ». Bien entendu que ça arrive et que ça se produit chez chaque enseignant. Maintenant, la question, c'est la régularité de ce type de situation dans lesquelles sont confrontés les élèves. Alors, sur les quelques points que j'avais développés également, c'est qu'il y a aujourd'hui, on repère, et d'après les travaux de Christophe Rouanet, une certaine psychologisation de la difficulté scolaire. C'est-à-dire que cette enseignante a choisi cette situation-là parce qu'elle la trouve beaucoup plus ludique et donc beaucoup plus intéressante. Elle ne veut pas mettre l'élève faible encore plus en difficulté. Donc il y a une sorte de réflexe compassionnel, dirait Mercier, quand elle opère la bifurcation vers une phrase formatée. Il y a une idée forte avec les élèves les plus fragiles, c'est que quelque part, il faut simplifier la situation. Donc, ce n'est plus la situation et les savoirs afférents qui sont au cœur de l'activité, mais en fait garder le relationnel avec les élèves et ne pas perdre la face. On voit aussi que les enseignants sont quelque peu outillés pour déceler les difficultés rencontrées. Ce qu'elle dit quand on l'interroge sur quelles sont les difficultés qu'ont rencontrées vos élèves, elle dit « Ah ben, celui qui est en difficulté, c'est celui qui n'est pas dans le métier d'élève. » C'était exactement ce qui a été dit hier par le collègue suisse. Et le métier d'élève qui ne sait pas forcément ce qu'on attend de lui. Et puis, elle dit aussi « Est en difficulté celui qui ne semble pas attentif, qui ne comprend rien à ce qu'on lui raconte, pour qui il y a vraiment des difficultés dans l'ordre de la compréhension des consignes et aussi des notions qu'on voit et aussi de ce qu'il fait là et de ce qu'on attend de lui. » En fait, elle ne fait pas du tout écho aux difficultés en mathématiques. Elle reste sur des aspects extrêmement génériques. Donc on voit que on peut qualifier cette sorte de désengagement en fait des situations d'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire que lorsqu'elle est interrogée ou interviewée sur ce qu'elle fait lors des aides personnalisées, elle dit « Lors de l'aide personnalisée, ils me disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils n'ont pas bien compris, ce qu'ils voudraient qu'on revoie. Ça peut être aussi de faire des divisions, ça peut être aussi faire un peu de géométrie, voilà. » Et en fait, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a là un écart. C'est-à-dire qu'elle n'a pas laissé un espace aux élèves pour dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils n'ont pas bien compris. Mais ce positionnement lui permet quelque part de ne pas préparer spécifiquement la séance, puisque a priori, elle ne sait pas vraiment ce qui va être travaillé. Et donc, elle n'a pas analysé les savoirs en jeu et les obstacles repérés dans cet apprentissage. Deuxième chose, elle dit aussi, lors des situations d'aide personnalisée, j'essaie vraiment de faire des choses différentes. Le temps de la classe et le temps de soutien, ce ne sont pas les mêmes modèles, pas les mêmes outils et pas la même façon de faire non plus. Ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'elle ne remet pas, elle remet en cause ses manières de faire et elle ne remet pas en cause l'analyse de la situation et des obstacles potentiels. Elle a l'impression que quand on aide les élèves en difficulté, il faut faire du neuf. Or, elle a cette idée qu'il vaut mieux faire du sur-mesure, c'est-à-dire au mieux s'adapter aux besoins des élèves, que plutôt de faire du prêt-à-porter, c'est-à-dire d'analyser les obstacles de cette situation et de voir de quelle manière elle va pouvoir engager l'apprentissage sur les distances. Donc, Jacinthe Giroux dit qu'il y a une certaine cécité sur les propriétés didactiques des situations d'enseignement. Donc on voit que comme elle n'a pas analysé les savoirs en jeu dans la situation, eh bien elle n'a pas pu aménager spécifiquement cette situation, c'est-à-dire essayer de trouver des aides différenciées. Ça aboutit à un morcellement, une sorte d'éparpillement des tâches. Vous avez vu, elle les amène, elle bifurque, elle fait faire autre chose, elle fait des tâches les unes après les autres. Et qu'elle va glisser tout doucement vers des apprentissages de plus en plus génériques qui délaissent la situation mathématique pour essayer de faire une phrase de l'ordre de la maîtrise de la langue. Et donc, elle les guide vers une production d'une phrase qui est un format scolaire que l'on voit qui est souvent très obligatoire. Donc, si on revient à notre question de groupe homogène faible, eh bien, le fait de travailler avec ce groupe homogène faible fait que la professeure n'ose pas vraiment confronter les élèves à leur ignorance. Or, en fait, un professeur, il doit montrer à l'élève ce dont l'élève n'imaginait même pas l'existence, et pour qu'en étudiant, il puisse l'apprendre. Donc si on ne confronte pas l'élève à l'ignorance, eh bien, il n'y aura pas d'apprentissage. Et d'un autre côté, Alain Mercier dit que c'est dans un collectif de pensée que les élèves vont pouvoir rencontrer ceux qui savent, et ça, quand les élèves rencontrent un collectif de pensée où ceux qui savent constituent le milieu favorable à l'apprentissage des autres. Or, ici, aucun des élèves ne sait. Donc, cette homogénéisation des groupes, eh bien, fournit en tous les cas une explication du fait que ces groupes mis en place à l'extérieur de la classe ne sont pas très chronogènes, c'est-à-dire ne font pas avancer le temps des apprentissages. Du coup, on peut dire que à ce moment-là, ce groupe-là le milieu qui est mis en place est très peu opérant. Alors, qu'est-ce qui peut agir sur cette pratique? Qu'est-ce qui la détermine? Sans doute un amalgame qui a été longtemps mis en place et qui est encore existant entre le terme de différenciation et celui d'individualisation. Beaucoup d'enseignants pensent que pour différencier, il faut individualiser. Les textes un peu anciens maintenant, mais de Gosseau en 2003, juxtaposent deux phrases. L'une commence par aide individualisée, l'autre commence par différenciation pédagogique, comme si c'était des synonymes. Deuxième chose, eh bien, peut-être le nombre de dispositifs mis en place à l'intérieur comme à l'extérieur de la classe, de l'école. Et je ne vois pas pourquoi mes petits nuages sont vides, mais devraient être pleins. C'est un travail de Félix et Soja qui montre que, depuis 20 ans, le nombre de dispositifs à l'intérieur du temps scolaire comme à l'extérieur du temps scolaire ne cesse d'augmenter. Et on voit que la durée des dispositifs est de plus en plus courte. Ainsi, le dispositif d'aide personnalisée a été mis en place en 2008. Il s'est éteint en 2013. On peut dire aussi que, du coup, énormément de dispositifs, ça signifie qu'il va y avoir énormément de circulaires. Mais, et ça c'est Danielou qui le dit, si les circulaires prescrivent beaucoup de buts, il y a une nette sous-prescription des moyens. Et cette nette sous-prescription des moyens fait que, eh bien, revient en boomerang les idéologies et les doxas de l'aide que j'ai développées un peu plus au départ. Alors, en conclusion, eh bien, il y a 6 points donc, que j'ai abordés dans cette communication. J'en ai abordé plus exactement 5. Le 6e, c'est le travail récent de Stanislas Morel sur une médicalisation de l'échec scolaire. Et ça, c'est d'autant plus net avec les élèves en situation de handicap. Et on peut voir, par exemple, se développer des métiers, tant mieux pour eux. Mais le nombre d'orthophonistes, par exemple, a été multiplié par 50 en l'espace de 20 ans. Donc, est-ce qu'il y a des démarches pour aider les enseignants à faire face aux difficultés? Est-ce qu'il y a des pistes à explorer? Je n'en donnerai que 3. Gérard Sansuvi dit « redonner le sens du jeu aux élèves », c'est-à-dire accompagner les élèves dans une enquête sur les savoirs à apprendre plutôt que de les orienter vers des activités. C'est donc quelque part enseigner des savoirs qui ont un passé et un avenir. Un passé, c'est-à-dire sur quoi ce qui est déjà là, ce que l'on sait déjà, et ça c'est bien dans le collectif de la classe, et que l'on mette un avenir, c'est-à-dire un continuum d'expérience qui va pouvoir permettre d'éprouver un même savoir sur un temps long, et d'abandonner quelque part la fragmentation des tâches qui fait perdre de vue à l'élève le but de son action. C'est aussi recentrer l'action enseignante sur un étayage didactique afin de réduire le risque de ce qu'on peut nommer l'exclusion de l'intérieur des élèves les plus fragiles. Pour cela, il importe que les professeurs élucident les obstacles qui sont liés au savoir. Et c'est aussi traquer les savoirs transparents, comme disent Margolinas et Lapara, c'est-à-dire ces savoirs qui vont de soi, qui ne sont pas enseignés et qui pourtant font cruellement défaut aux élèves, dont la culture est bien entendu la plus éloignée du scolaire. Donc l'enseignement explicite de ces savoirs, tout comme le renoncement à certains habillages, par exemple ludiques, qui masqueraient en fait les véritables attendus scolaires et didactiques des situations d'enseignement-apprentissage, et qui permettraient de lever un certain nombre de malentendus, dirait Bautier, qui disqualifient en fait les élèves les plus fragiles. Alors, je finirai, c'est ma dernière diapo, sur le dispositif plus de maîtres que de classes qui a été abordé, dont Patrick Picard nous a montré un morceau de pratique. Pourquoi je finis là-dessus? Parce qu'il me semble que ce nouveau dispositif, qui est très récent, puisque la circulaire date de 2012, et dont j'espère qu'il pourra vivre pleinement sa vie, permet effectivement, en tout cas ce que l'on voit dans nos premières recherches, c'est un recentrage sur les questions d'enseignement et apprentissage. Le fait de mettre un enseignant de plus dans certaines équipes fait qu'il y a une déstabilisation professionnelle qui se déclenche et qui rend nécessaire le travail à plusieurs, dont le travail nécessaire à plusieurs au sein d'une même classe. À ce moment-là, on a ce que l'on voit apparaître des collectifs d'enseignants. C'est sur cette idée des lesson studies qui ont été mises en place il y a déjà longtemps au Japon et qui semblent porter leurs fruits, c'est-à-dire le fait d'étudier collectivement une leçon. Et c'est ce que font dans le dispositif plus de maîtres que de classes des enseignants avec ce maître en plus, parce qu'il va falloir expliciter ce que l'on va mettre en place à plusieurs. Je vous remercie. Thank you.